Radio Orient présente Pluriel. Pluriel, animé par Loïc Barrière.
L'invité de Pluriel est Samia Badat-Karam, conseillère de Paris Les Républicains, élue dans le 16e arrondissement, membre du groupe Changer Paris, présidé par Rachida Dati. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors Samia Badat-Karam, vous avez été élue en juin dernier lors des dernières municipales. Est-ce que vous pouvez d'abord nous raconter votre parcours personnel et politique ?
Oui, merci en tout cas pour cette invitation sur cette chaîne que j'apprécie beaucoup. Donc moi, effectivement, j'ai été élue en juin dernier, mais pour un second mandat, puisque j'avais été élue en 2014 sur la liste de Claude Goasguen. J'étais à l'époque adjointe au maire du 16e arrondissement, et depuis juin de l'année dernière, je suis toujours élue à la mairie du 16e arrondissement, mais je suis également conseillère de Paris, donc je siège avec les 162 autres conseillers de Paris à la ville de Paris.
Et alors, vous avez un attachement particulier à La Réunion, à Paris, à Claude Goasguen. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce parcours ?
Oui, moi, en fait, je suis une enfant de l'île de La Réunion, de cette merveilleuse île française perdue au milieu de l'océan Indien. Et je suis arrivée à Paris à l'âge de 18 ans pour y faire mes études. Et puis, bon, pour m'y installer, et c'est un peu par hasard que je suis arrivée dans le 16e arrondissement, et c'est grâce à Claude Goasguen que j'ai pu être élue en 2014, et puis plus récemment, grâce à Claude Goasguen et à Francis Piner, que j'ai pu donc renouveler ce mandat et même l'élargir pour être maintenant également conseillère de Paris, donc c'est-à-dire également conseillère départementale, puisque la ville de Paris est également le département de Paris. Effectivement, mes racines sont à La Réunion. Je suis issue de cette communauté qu'on appelle la communauté arabe de La Réunion, un peu improprement, puisque nous ne sommes pas arabes, mais indo-musulmans. Mes racines sont là-bas, mais mon cœur est aujourd'hui à Paris, et j'ai à cœur de défendre les Parisiens du 16e, mais également tous les Parisiens.
Alors, Samia Badat-Karam, vous vous occupez notamment des écoles, des cantines scolaires. D'abord, un mot du nouveau protocole sanitaire en vigueur dans les écoles depuis lundi. Un élève contaminé au Covid, toute la classe est fermée. C'est un principe de précaution que vous approuvez, même si ça risque d'entraîner la fermeture de nombreuses classes.
Moi, je comprends totalement la détresse des enseignants, des directeurs, des personnels périscolaires, puisque je m'occupe effectivement des cantines, donc il ne faut pas oublier les cantinières et le périscolaire. Je pense qu'on devrait aller beaucoup plus loin. Nous, le groupe Changer Paris, et notamment Rachida Dati, a demandé depuis la semaine dernière que soient vaccinés prioritairement tous les enseignants et tout le personnel périscolaire. C'est une nécessité. D'ailleurs, Rachida Dati va être exemplaire puisqu'elle a réservé 300 créneaux de vaccination à la mairie du 7e arrondissement. Il faudrait que Madame Hidalgo s'empare de ce sujet. Les personnels prioritaires aujourd'hui, c'est tous ceux dans l'éducation nationale, c'est ceux qui sont touchés. Dans l'école de ma fille, beaucoup d'enseignants sont touchés. Un autre sujet sur lequel, au groupe Changer Paris, nous souhaiterions que la mairie de Paris soit plus proactive, c'est des tests salivaires. Aujourd'hui, il y a très très peu d'écoles à Paris qui sont testées. Lorsque nous, en tant que parents, on nous dit qu'une école va être testée à la dernière minute, les tests sont annulés. Donc on demande vraiment que sur ces deux sujets, la vaccination des enseignants et du périscolaire et les tests salivaires, la ville de Paris soit beaucoup plus offensive et beaucoup plus efficace.
Est-ce qu'il est possible de mettre les enseignants sur la liste des personnes prioritaires dans la vaccination, alors que visiblement la France n'a pas encore le nombre de doses nécessaires?
Alors vous avez vraiment mis le doigt sur le sujet, la question des doses, on n'est vraiment pas bon, hein. Vous avez vu que dans d'autres pays ça se passe beaucoup mieux, on ne va pas refaire l'histoire, mais c'est vrai qu'en France on n'est vraiment pas bon au niveau de la quantité de vaccins que nous avons à disposition, mais on peut, à notre petit niveau, au niveau des mairies d'arrondissement, puisque vous avez vu Rachida Dati le fait, réserver des créneaux aux enseignants, et c'est à ce niveau-là que nous essayons de bouger, mais nous appelons à un sursaut de la ville de Paris, de Madame Hidalgo. Elle a quand même les moyens de faire bouger les choses. Il faut absolument que les enseignants et le périscolaire, parce que le périscolaire, c'est les animateurs dans les écoles qui sont en contact des enseignants, les ADSEM, le personnel de cantine, eux également doivent être prioritaires, de manière à pouvoir laisser les écoles ouvertes, qui est quand même un enjeu majeur.
Samia Badat-Karam, est-ce que le protocole sanitaire dans les cantines scolaires doit être revu également pour éviter les contaminations, puisqu'on sait que c'est au moment où l'on déjeune que les risques d'être contaminés sont les plus forts?
Les cantines sont également effectivement un lieu pointé en matière de contamination. Un rapport récent disait que 3 lieux étaient ciblés, les restaurants qui sont actuellement fermés, les repas de famille, alors là on n'a pas tellement la main, mais bon, chaque personne doit être vigilante, et également effectivement les cantines. Alors actuellement, ce que nous faisons dans les cantines du 16e, et je sais ce que font également dans les autres arrondissements, c'est que nous faisons un maximum de services pour éviter les brassages. C'est-à-dire qu'avant, on faisait un ou deux services, maintenant, on en fait 4, 5. Donc, vous imaginez, pour les cantinières, c'est épuisant. Pour les enfants, c'est épuisant parce qu'ils doivent manger de plus en plus vite. Donc, pour essayer de remédier à ce problème, nous, ce que nous proposons, et ce que notre groupe, donc Changer Paris, va proposer au prochain Conseil de Paris, c'est l'installation, le financement du purificateur d'air dans les cantines. Valérie Pécresse le fait déjà avec la région et les lycées. Nous, à la mairie de Paris, il n'y a absolument rien de prévu. Donc, nous allons le demander. La ville de Paris doit financer ces purificateurs d'air qui ont fait leurs preuves et qui doivent permettre d'assainir l'air dans les cantines qui sont effectivement pointées comme des lieux de contamination.
Alors, vous parlez de Valérie Pécresse. Samia Badat Karam, la présidente de la région, a proposé qu'on allonge de 15 jours les vacances de Pâques. Vous regrettez que pour l'instant, cette option n'ait pas été privilégiée par le gouvernement ?
Moi, je pense que de manière générale, tout ce qui peut permettre de ralentir la contamination, la contagion dans les écoles, doit être envisagé. La piste de Valérie Pécresse en est une, mais encore une fois, je vous dis, faisons des tests salivaires et vaccinons les enseignants. Parce qu'effectivement, il y a un enjeu majeur qui est de laisser les écoles ouvertes, mais on doit se donner les moyens et ça passe vraiment par plusieurs politiques. Et notamment, je vous dis encore une fois, on risque de nous répéter, la vaccination des enseignants.
Alors Samia Badat Karam, puisque vous vous occupez des cantines, depuis novembre 2019, tous les établissements scolaires sont tenus de proposer au moins un menu végétarien aux élèves par semaine. Qu'en est-il dans les cantines pour les élèves parisiens ?
Alors, ce qui se passe, en fait, c'est que depuis la loi Egalim, il y a une obligation de faire un menu végétarien par semaine. Nous, dans le 16e arrondissement, parce que chaque caisse des écoles est indépendante. En gros, ce que vous mangez dans le 16e, vous ne le mangez pas dans le 17e ni dans le 19e. Donc, nous, dans le 16e arrondissement, nous avions été proactifs et 2 ou 3 ans avant la loi Egalim, on proposait déjà des menus végétariens, de sorte que nos cantinières n'ont pas été étonnées lorsque c'est devenu une obligation. Mais nous allons beaucoup plus loin, puisque nous pensons qu'au-delà du végétarien, les enfants doivent manger avant tout une alimentation saine et équilibrée. Parce qu'il ne s'agit pas de faire du végétarien à tout prix et faire du steak de soja de mauvaise qualité ou qui est beaucoup plus polluant qu'un morceau de viande. Donc notre credo, nous, dans les cantines du 16e arrondissement, c'est la qualité avant tout. 60% d'alimentation durable, des produits label rouge, des poissons pêche durable, des menus à thème. C'est ça l'important pour nous et je pense que les familles en sont satisfaites.
Alors vous travaillez également sur la question du sport. Les Parisiens sont-ils aujourd'hui totalement privés d'accès aux équipements sportifs en raison de la crise sanitaire ou bien il est quand même possible de faire du sport avec un protocole sanitaire extrêmement strict ?
Alors, ça change absolument toutes les semaines. La question de l'accès au sport est un véritable casse-tête. Et là, en l'occurrence, les directives gouvernementales sont pour le moins floues et fluctuantes. Donc actuellement, à l'heure où je vous parle, mais vraiment, ça, tout peut changer, les scolaires ont pu reprendre le sport, les scolaires. Par contre, tout ce qui est en dehors, les activités en dehors ne sont pas permises. On peut faire du sport, paraît-il, en plein air, mais certains sports sont possibles d'autre part. Par exemple, je vous donne une aberration, on a un club de pétanque dans le 16e. Le lundi, ils reçoivent une lettre en leur disant « Vous êtes en sport de plein air, vous pouvez en faire. » Le mardi, on leur dit « Vous êtes en sport collectif, vous ne pouvez pas. » Au final, personne n'est capable de donner une réponse. La ville de Paris, qui fait un peu l'exégèse des directives gouvernementales, est elle aussi un peu dépassée par les événements. C'est très compliqué aujourd'hui de faire du sport à Paris et en France et on attend vraiment du gouvernement et de la ministre des Sports vraiment qu'elle soit claire, précise et surtout cohérente parce qu'aujourd'hui il y a un manque de cohérence.
Est-ce qu'aujourd'hui tout est bloqué à Paris en raison de la crise sanitaire ? Est-ce que tous les dossiers sont suspendus à la fin de la pandémie ?
Tout n'est pas bloqué. On travaille, en tout cas à l'échelle en tout cas de la mairie du 16e arrondissement et même au niveau de la ville de Paris, puisque nous faisons des conseils de Paris, d'ailleurs qui se tiennent en présentiel. Les dossiers avancent. En revanche, tout ce qui est lié à l'événementiel, à la communication, tout ce qui est événement sportif, effectivement, est reporté. Actuellement, on travaille en se disant, cet événement, on va pas le faire en 2021, on va le faire plutôt en 2022. Les projets dans les écoles, effectivement, sont bloqués parce qu'on ne va pas aujourd'hui faire intervenir des extérieurs dans les écoles. Mais malgré tout, on travaille sur les futurs projets. Mais dans un contexte très particulier.
Alors, Samia Abadat-Karam, un nouveau conseil de Paris a lieu dans 15 jours. Et vous souhaitez présenter un vœu sur la piscine Molitor. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette piscine emblématique de votre arrondissement, le 16e?
La piscine Molitor, qui est située à la porte d'Auteuil, est vraiment un établissement donc absolument magnifique. Et paradoxalement, qui était donc une piscine publique, c'est la ville de Paris, à l'époque de Bertrand Delanoë, donc une mairie de gauche, qui a décidé de la privatiser. Et donc, pour des raisons, paraît-il, financières, cette piscine n'est plus accessible aux citoyens lambda. Il faut être adhérent d'un club avec une adhésion très chère. Au moment de cette privatisation, la ville de Paris, pour faire passer la pilule, si je peux m'exprimer ainsi, avait promis à tous les établissements scolaires environnants, je pense au lycée Jean de La Fontaine, je pense à Claude Bernard, je pense à Jean-Baptiste C, la ville de Paris leur avait promis des créneaux pour les scolaires. Or, 3 ans après, et dans la plus totale discrétion, ces créneaux ont été supprimés, ce qui fait que les scolaires du 16e arrondissement sont obligés d'aller dans d'autres arrondissements, de prendre des bus, de louer des bus, ce qui coûte d'ailleurs très cher, en bilan carbone d'ailleurs, c'est pas terrible, hein. Je me demande ce que les élus verts de Madame Hidalgo en pensent. Donc nous, ce que nous proposons avec le groupe donc Changer Paris, c'est vraiment de remettre cette piscine aussi à disposition des scolaires en lui allouant à nouveau des créneaux.
Alors, vous êtes élue conseillère de Paris depuis moins d'un an, même si vous avez été élue auparavant à la mairie du 16e arrondissement en 2014. Vous siégez donc dans l'opposition au sein de ce conseil de Paris. Comment travaillez-vous avec la majorité dirigée par Anne Hidalgo ?
Alors moi, je suis assez consternée depuis les 4 ou 5 mois, depuis juin 2020, où je suis élue au conseil de Paris, par le fonctionnement antidémocratique qui prévaut au sein de cette assemblée, en fait. Très concrètement, à chaque fois que notre groupe propose un vœu ou une délibération, il est systématiquement rejeté sans aucun fondement. Sans aucun fondement. C'est-à-dire qu'on se demande d'ailleurs à quoi sert l'opposition, alors que nous sommes aujourd'hui le principal groupe d'opposition avec 55 membres, puisque Madame Hidalgo a une majorité totalement hétéroclite, qui d'ailleurs vote très souvent contre elle, hein. Je pense notamment aux Verts, à Madame Coffin, aux communistes, enfin une majorité très instable. Nous, on est un groupe stable de 55 conseillers de Paris, mais face à cette grande assemblée de gauche, on a du mal à faire passer quoi que ce soit. Des vœux ou des délibérations extrêmement, cohérentes et apolitiques ne passent pas. Lors du dernier Conseil de Paris, Rachida Dati a proposé des dispositifs sur la jeunesse. Ils ne sont pas passés. Moi-même, il y a 2 ou 3 Conseils de Paris, j'ai fait un vœu pour qu'on lutte contre l'homophobie dans le sport. C'est un sujet qui est quand même consensuel. Ils ont refusé au seul motif que j'étais une femme de droite et qu'effectivement, le sujet de l'homophobie ne pouvait pas être porté par une femme de droite. C'est affligeant. C'est consternant et on siège dans une assemblée où on est censé avoir une voix au chapitre, nous n'en avons aucune. Et nous, la droite, on vote systématiquement les délibérations et les vœux qui nous paraissent de bon sens. On va dire qu'on vote la majorité des propositions, des subventions proposées par la ville de Paris. Eux, en revanche, ne votent jamais tout ce qui émane de nous, pour des raisons purement dogmatiques. Et c'est vrai qu'au bout de 4 ou 5 mois, je suis quand même assez désabusée par leur fonctionnement.
Alors, on parle beaucoup de l'écologie politique depuis le succès des écologistes aux européennes, depuis que les écologistes ont pris des mairies importantes, je pense à Strasbourg, Lyon, Bordeaux. Qu'en est-il des écologistes à Paris? Quel regard portez-vous sur ce groupe écologiste à la mairie de Paris?
Le groupe écologiste à la ville de Paris est malheureusement pollué par des personnalités absolument affligeantes, comme Alice Coffin, pour ne citer qu'elle. Lors du dernier Conseil de Paris, nous avons eu droit à un drame, un mélodrame politique, puisque Madame Hidalgo et sa majorité ont proposé, en continuité avec ce qui avait été voté avant, de donner une place en toute légitimité à notre défunt maire, Claude Goasguen, dans le 16e arrondissement. C'est quelque chose qui, en plus, avait déjà été voté dans un précédent Conseil de Paris. Eh bien, ces verts dont vous parlez ont fait un scandale en se mettant à insulter la mémoire d'un homme, rappelons-le, qui est décédé. Donc, voilà, les verts aujourd'hui, c'est ça. C'est beaucoup d'insultes, y compris de personnes décédées, pas beaucoup de projets. C'est pas très constructif, malheureusement. Et voilà, et je ne pense pas qu'il redore l'image d'un parti qui est censé défendre l'ensemble des citoyens. Les Verts à Paris, c'est beaucoup de scandales, beaucoup de polémiques et assez peu de constructifs.
Samia Badat Karam, vous avez été reçue à la Grande Mosquée de Paris avec les membres de l'Association des chrétiens d'Orient en danger, présidée par Patrick Karam, votre mari. Des actions communes sont envisagées avec la mosquée?
Nous avons été vraiment ravis de rencontrer, enfin d'être reçus par le recteur de la Grande Mosquée de Paris, Shemseddis Hafiz, qui est vraiment un homme de dialogue et un homme exceptionnel. Et je voudrais vraiment le souligner parce que, en tant que je sors un petit peu de mon rôle de politique, en tant que femme musulmane, je suis très heureuse d'avoir Monsieur Shemseddis Hafiz comme interlocuteur, parce que c'est un homme ouvert, un homme de dialogue, un homme très intelligent. Et d'ailleurs, c'est lui qui a voulu travailler avec la Credo, c'est lui qui effectivement a contacté Patrick Karam. Il connaissait la coordination des chrétiens d'Orient en danger et il nous a proposé de travailler très très concrètement, par exemple avec lui sur la sensibilisation des imams au sujet des chrétiens d'Orient. Et notamment dans les prêches du vendredi. Donc des actions concrètes, des séminaires en commun vont bientôt être mis en œuvre, effectivement, quand la situation sanitaire le permettra.
Les chrétiens s'apprêtent à fêter Pâques, les juifs ont célébré Pessah, les musulmans vont bientôt faire le ramadan. Le dialogue interreligieux, vous qui venez de la Réunion, c'est un moyen de rapprocher les gens, alors qu'on vit dans une société où les crispations identitaires ont tendance à porter de la division?
Il est fondamental, le dialogue interreligieux. Moi qui viens de la Réunion, pour moi, c'est une évidence. Alors c'est vrai qu'à Paris, c'est moins le cas. Je ne sais pas si le modèle réunionnais de vivre ensemble est transposable, mais à ma petite échelle, en tout cas, j'essaie de le transposer. Moi-même, je suis musulmane, mais je suis la plus fervente défenseur des chrétiens d'Orient. Je pense que défendre les chrétiens d'Orient n'est pas le fait des chrétiens. Défendre les juifs ne doit pas être uniquement le fait des juifs. Je pense que, justement, si on œuvre pour le vivre ensemble et pour la cohésion sociale, nous devons tous nous emparer de ces sujets qui sont liés au fond aux questions des droits de l'homme et de la fraternité.
Comment expliquez-vous qu'il y ait ce modèle réunionnais qu'on n'arrive pas véritablement à transposer en métropole?
La Réunion, en fait, était un territoire absolument village. Il n'y avait pas de population qui... Il n'y a personne qui peut dire « La Réunion, c'est plus à moi ou à quelqu'un d'autre ». Il y a un équilibre des communautés. Peut-être notre éloignement fait-il que nous avons la nécessité absolue de bien nous entendre. Mais il faut aussi dire que ce vivre ensemble, il n'est pas, il s'est construit au-delà des années. Cette année, la Réunion, c'est 75 ans de départementalisation. Donc tout ne s'est pas fait en un jour. C'est ce que nous disons d'ailleurs à nos voisins, les Mahorais. Tout ne s'est pas fait en un jour. Ce vivre ensemble, nous l'avons construit avec nos frères catholiques, avec nos frères hindouistes, avec nos frères bouddhistes. Le modèle réunionnais, c'est un modèle aussi qui s'est construit avec le temps. Peut-être que la France hexagonale a encore besoin de temps.
Merci Samia Badat Karam. Je rappelle que vous êtes conseillère de Paris Les Républicains, élue dans le 16e arrondissement, membre du groupe Changer Paris, présidé par Rachida Dati. Bonsoir.
Merci pour votre invitation. Au revoir.
C'était Pluriel, une émission hebdomadaire présentée par Loïc Barrière.